Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio pour prendre soin de nous tous. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons vous parler de la chrononutrition avec le concepteur de cette méthode, le docteur Alain Delabo. Le chrononutrition, vous verrez, c'est une méthode qui vous permet de consommer tous les aliments habituellement interdits par les régimes classiques, mais au bon moment. Car en fait, tout aliment est bénéfique s'il est consommé en fonction de l'horloge biologique du corps, alors que le même aliment pris à un autre moment risque tout simplement de vous faire grossir. On va tout vous expliquer dans le détail. Ensuite, comme tous les lundis, Benjamin Lévesque nous rejoindra pour sa chronique beauté hebdomadaire. Cet après-midi, il viendra nous présenter le massage Kobido. C'est le massage tendance en ce moment. La technique nous vient du Japon et nous promet de nous aider tout simplement à rajeunir. J'ai hâte d'en savoir plus. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses amoureux qui changent complètement de comportement avec leur moitié quand ils sont en public.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Alicia. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'aurais une question à vous poser. J'ai mon fils qui veut à tout prix que je lui achète un dentifrice au charbon. Il m'assure qu'avec ça, il aura les dents toutes blanches. Mais je me demande quand même si c'est pas un peu dangereux pour les mailles des dents. Est-ce que vous pourriez m'éclairer un peu plus sur le sujet ? Merci beaucoup et bonne émission.
Alors, tout ce qui est au charbon, en ce moment, Jimmy, on reçoit des dizaines de questions, c'est incroyable, oui. Hein, c'est vraiment un phénomène de mode. Alors, pour vous répondre, Alicia, on a fait appel au docteur Christophe Lecard, il est chirurgien dentiste, membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire.
Les dentifrices au charbon ne sont actuellement pas conseillés en termes d'hygiène bucco-dentaire parce que, en tout cas, le charbon ne va pas modifier la teinte propre de la dent. Il va permettre simplement de gommer les colorations de surface liées à la consommation de tabac, de café et de thé, mais il ne modifiera vraiment pas la teinte des dents. Le problème du charbon, c'est qu'il est relativement abrasif, donc il est susceptible d'éliminer une partie de la couche d'émail, et l'émail, une fois qu'il a été éliminé, il ne repousse pas. C'est pour cela que l'on déconseille actuellement l'utilisation des dentifrices au charbon. Le seul problème, on ne connaît pas le coefficient d'abrasivité de ces dentifrices, qu'on appelle le RDA. Donc, pour vous garantir une bonne santé et ne pas abîmer l'émail de vos dents avec ces dentifrices au charbon, il faudrait que les fabricants nous fournissent le coefficient d'abrasivité.
Voilà, c'était le docteur Lecard au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question, celle d'Augustin qui nous a appelé de Metz. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. J'ai eu la Covid en janvier dernier. Mon médecin traitant m'a dit que pendant 2 mois j'étais immunisé et que je pouvais même développer des anticorps pour plus tard, pour plus longtemps. Mais le problème c'est qu'avec tous les variants qui se sont développés, ça m'inquiète quand même. Est-ce que je suis réellement immunisé de tous ces variants après avoir eu la Covid une première fois? Je voudrais avoir une réponse et puis je vous remercie d'avance.
Alors Jimmy, on va reprendre tout du début. Augustin nous dit qu'on lui a dit, que son médecin lui a dit qu'il était immunisé donc après son Covid au mois de janvier pendant au moins 2 mois, peut-être un peu plus. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça et plus individuel que cela en fait. Hein.
Exactement. Alors ce que les études disent, et donc ça va peut-être évoluer avec le temps, c'est qu'après une infection au coronavirus, vous développez des anticorps pour une durée au moins de 9 mois.
Ça, c'est vrai. La moyenne en fait.
C'est la moyenne. Ça veut dire que certains patients, notamment les asymptomatiques et les personnes parfois un peu âgées, vont développer des anticorps un peu moins longtemps. Et qu'à l'inverse, certains, notamment des patients qui ont été en réanimation, qui ont fait des formes sévères, vont certainement développer des anticorps plus longtemps. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de jouer sur le temps. Il faudra tout simplement se faire vacciner pour se débarrasser de ce virus.
Alors, est-ce que c'est vrai que certains vont développer, après une infection par la Covid, des anticorps pendant un long moment à distance? Parce que moi, pour rien vous cacher, j'ai eu des anticorps tout de suite. Mon mari aussi, par contre, il n'en a plus et moi, j'en ai encore.
Exactement. Il y a une variation individuelle. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'anticorps que vous n'êtes plus protégé. C'est même plus compliqué que ça. Ce qu'on sait, c'est que les enfants vont développer 2 fois plus d'anticorps que les adolescents, qui vont en développer 2 fois plus que les adultes. Et en vieillissant, effectivement, notre système immunitaire est moins performant. Donc peut-être que vous, Mélanie, c'est la jeunesse qui fait que vous avez beaucoup d'anticorps.
C'est un gros avantage, bien sûr. Alors, quid des variants? Il pose aussi la question. Il dit qu'il a eu le Covid, a priori la première souche, on va dire le classique. Est-ce qu'il est protégé grâce à ses anticorps contre les variants? Parce qu'il y en a plusieurs maintenant.
Exactement. Alors, ça redistribue les cartes, cette histoire de variants. En ce qui concerne le variant anglais, il semblerait que l'immunité soit plutôt stable. En revanche, le variant sud-africain et brésilien, qui pour l'instant reste minoritaire aux alentours de 5% des PCR, eh bien lui confère une infection un peu plus sévère et surtout qui va échapper à une immunité ancienne. Ça veut dire quoi ? Que si vous avez eu le coronavirus il y a un mois ou deux, si vous rencontrez ce variant africain ou brésilien,
ou breton, ou catalan, parce qu'il y en aura peut-être d'autres,
exactement,
des variants.
Exactement.
Hein,
vous allez retomber malade. Et encore une fois, là, quand on regarde ce qui se passe en Inde, ils ont eu plus de 100 000 cas par jour. Ça veut dire que tôt ou tard, il y aura des variants et qui vont et chercher à échapper à l'immunité, notamment conférée par la vaccination.
Et donc, vous disiez, les gens qui ont eu le Covid, quel que soit le variant concerné, ils devront malgré tout, c'est conseillé de se faire vacciner, mais à combien de temps après l'infection ?
L'immunité conférée par la vaccination est nettement plus efficace et de plus longue durée que l'immunité conférée par l'infection. Lorsque vous avez eu le coronavirus, soit par une PCR positive ou une sérologie positive, l'un ou l'autre, il faut attendre un délai de 3 mois avant d'aller pouvoir vous faire vacciner avec une seule dose. Il est possible que les choses évoluent. Et puis une fois qu'on aura un peu plus de vaccins...
Ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas exactement ce qu'on dit demain.
Peut-être qu'il faudra deux doses une fois qu'on aura un peu plus de vaccins. Mais pour l'instant, c'est une dose 3 mois après l'infection.
Très bien. Merci Jimmy pour ces infos. Donc à date, c'est valable aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais aujourd'hui, c'est le cas. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre dossier du jour consacré à la chrononutrition, une méthode qui permettrait de mincir sur mesure. On va vous expliquer très concrètement comment tout ça se traduit dans l'assiette avec le concepteur de la chrononutrition, le docteur Alain Delabo. Ce sera notre invité. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Alain Delabo, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à vous madame, bonjour à vous Jimmy. Ouais. Très heureux de vous retrouver ici pour papoter un peu et pour vous parler de la chrono.
Voilà, exactement. Alors je vous présente, vous êtes médecin, donc concepteur de la chrononutrition. Vous êtes directeur de l'IRENS, l'Institut de Recherche Européen sur la Nutrition et la Santé. Et vous êtes également l'auteur du livre dont on va parler cet après-midi, mincir sur mesure grâce à la chrononutrition qui est parue chez Albin Michel. Alors docteur, si on doit expliquer dans les grandes lignes, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire un grand exposé, mais la chrononutrition, c'est quoi les bases ?
C'est tout simplement le respect, ça n'est pas une invention. J'ai inventé les morphotypes, la morphonutrition, mais la chrononutrition n'est pas du tout une invention. J'ai simplement ouvert les bouquins de biologie médicale de cinquième année, j'ai regardé et je me suis aperçu qu'en fait, en diététique, on appliquait exactement l'inverse de ce que veut le corps humain. Donc, la chrono, c'est l'application complète de la chronobiologie humaine.
C'est et vous tout. Écrivez dans votre livre que c'est en quelque sorte un retour à nos habitudes alimentaires ancestrales. Ça veut dire quoi ? Que l'homme des cavernes se nourrissait de la bonne façon ?
Oui. Oui, parce que l'homme des cavernes, tout comme les animaux carnivores actuels, se nourrissait en suivant son cerveau primitif. Le cerveau cognitif, c'est à la fois une bonne chose et une véritable plaie dans la civilisation actuelle. C'est qui nous fait faire les pires bêtises, parce que malheureusement, la pensée humaine peut varier, peut être n'importe quoi, alors que le cerveau primitif, depuis des millions d'années, il nous dicte ce qu'il faudrait faire et on ne l'écoute plus. Et ce que j'ai réussi à trouver et à faire, c'est à vous redonner la possibilité de suivre votre cerveau primitif et de enfin lui obéir. À tel point que quand vous refaites certaines bêtises, vous avez un signe d'alerte. D'abord, vous êtes mal fichu, soit vous êtes malade, soit vous allez carrément aux toilettes. Enfin bref, vous avez le signe d'alerte primitif qui est revenu. Mmh. Et c'est une très bonne chose parce que ça vous permet d'être raisonnable en sachant que si vous ne l'êtes pas, vous allez le payer.
Mmh. Docteur Delabo, la chrononutrition, justement, alors c'est vous qui l'avez conçue, c'est validé scientifiquement, au-delà du fait que, bien sûr, vous avez bien développé le concept,
alors,
la méthode ?
Ça a été validé il y a très longtemps par le professeur Rapin, Jean-Robert Rapin, qui était connu mondialement, qui était un spécialiste en neurosciences, et qui était pharmacien et pharmacologue, et qui l'a validé en 1996, et qui m'a d'ailleurs dit à l'époque « Tu ne sais pas ce que tu as découvert ». J'ai dit « Si, j'ai découvert comment faire mincir les gens ». Il m'a dit « Non, non, tu verras ». Et je pense à Jean régulièrement, tout le temps, parce que la chrono continue à avancer. Et je me rends compte qu'en fait, il avait raison. Ça ne sert pas qu'à mincir, ça sert à beaucoup de choses.
Mais justement, par exemple, le matin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on sécrète de différent par rapport au soir et qui fait qu'on devrait avoir une alimentation différente ?
Très bonne question de médecin, ça. En fait, vous avez tout à fait raison. Le matin, si on ne mange pas suffisamment tôt des gras saturés, on va fabriquer de la HMG coenzyme réductase qui va vous obliger à fabriquer du cholestérol endogène parce que vous n'aurez pas reçu assez de cholestérol exogène. C'est dans tous les bouquins de chronobiologie humaine.
Et donc, le matin, il faudrait manger du gras alors, c'est ça ?
C'est pas il faudrait, on doit.
On doit, carrément. Hein, oui.
Et on doit manger des gras saturés.
C'est-à-dire,
et le meilleur de tous les gras saturés, c'est le fromage. Et plus il sera gras, mieux ça vaudra. Et plus vous en mangerez, mieux ça vaudra. Et si vous avez
comme
moi... Nadim,
il est content, il adore le fromage, hein. Là, ça vous lui fait plaisir. Mais lui, il en mange toute la journée, c'est ça le problème.
Mais alors, c'est quoi le petit déjeuner le petit déjeuner type, du coup, du fromage, qu'est-ce qu'on mange ?
Du pain, de préférence de la baguette tradition. J'ai pas d'action chez Tradi, mais c'est la meilleure, c'est la meilleure farine, c'est la farine ancienne, la farine tradition qu'on fait griller. Et puis de l'huile d'olive sur le pain, si on a comme moi du cholestérol. Ou du beurre, qui est un gras saturé, vous le savez, uniquement saturé, donc à ne pas prendre si vous avez une hypercholestérolémie.
Dans le menu en détail, on y reviendra. Mais
et puis bien sûr, thé, café, infusion, etc.
On refera la liste des courses tout à l'heure. Mais le reste de la journée, vous avez dit le matin, donc ce qui s'est passé dans l'organisme qui appelait tel ou tel finalement comportement. Le reste de la journée et le soir, on assimile moins bien les aliments. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps au niveau de la chronobiologie ?
Le soir, vous avez sauté le déjeuner, mais on va y repasser après si vous voulez. Le soir, en fait, vous avez mangé gras le matin, vous avez mangé lourd le midi, vous avez mangé les protéines qui vont meubler, qui vont occuper vos cellules, dont vous avez fabriqué les parois avec les gras naturels qui se sont transformés en gras polyinsaturés dans la journée. Et vous allez le soir, vous n'aurez en principe pas tellement faim. Si vous avez très bien mangé le matin et le midi, le soir, c'est un repas facile.
Moi, c'est le repas où j'ai le plus faim. Alors, je me dis que je dois tout rater. Ouais,
ah oui,
ça.
On peut savoir quelle quantité de fromage vous mangez le matin ?
Aucun, rien du tout, zéro.
Alors, ne cherchez pas.
Par contre, le soir, j'en mange des kilos.
Tant que vous ne mangerez pas du fromage le matin, vous crèverez le fin de soir.
Écoutez, on va essayer. Bon. Hein, ça ne me semble pas si compliqué que ça d'essayer. Je vais le faire.
En tout cas. C'est très facile. Ouais.
Et ça veut dire que si jamais le soir, on mangeait plus lourd, qu'on fait comme Mélanie, manger du fromage le soir, on va moins bien assimiler. Qu'est-ce qui va se passer ?
On va pas l'assimiler, peut-être. On va pas l'assimiler, c'est fini. Votre organisme, vous avez suivi le suite du cortisol, qui a un énorme pic avant le réveil. C'est d'ailleurs la diminution du cortisol, l'apparition de l'insuline qui fait qu'on a faim. Vous allez dans la journée avoir un deuxième pic de cortisol très important, vous en avez un tout petit en fin de journée, puis après c'est fini. Donc votre organisme n'est plus en mesure de métaboliser à nouveau, surtout que si vous faites ça, et là Mélanie va avoir honte.
Ça y est, mais j'ai déjà honte depuis le début de cette émission.
Je vous taquine. C'est... Mais vous allez être obligé de faire deux travaux à la fois. Un, reconstruire votre corps. Tout le monde doit se reconstruire la nuit, c'est très important. Et à mon âge, c'est encore plus important.
On se répare, quoi, c'est ça très...
Voilà. Mmh. Et la réparation se fait plus longuement et plus longtemps chez les gens âgés. Donc, il faut faire, à nos âges, il faut vraiment respecter la mécanique. Et puis, vous allez en même temps refabriquer, vous allez des aliments qui vont arriver. Mais vous n'allez pas savoir quoi en faire.
Vous qui êtes légèrement plus âgé que moi, vous mangez quoi, vous mangez quoi la nuit, le soir ? Pas du tout ?
Du poisson.
Moi, j'ai mes parents, ils mangent un yaourt et au lit souvent.
Oui,
hein.
C'est la meilleure façon de se ramasser du cholestérol.
Ah, bah, bravo,
si je fais ça,
maman,
moi, mon cholestérol, il est à 5 grammes. Hein. J'ai pas intérêt à le faire avec mon cholestérol génétique. Le yaourt est un aliment formellement interdit dans la chrononutrition à partir de l'âge de 24 mois.
Ah oui.
Tout laitage contenant du lactose et des facteurs de croissance doit être interrompu définitivement à partir de l'âge de 24 mois.
Un yaourt de brebis, peut-être ça marche mieux ?
Non, qu'il soit de brebis, de vache, de souris, de tout ce que vous voudrez, ou de tigresse. Non.
On passera pour le lait de tigresse. Mais... Alors, vous dites dans votre livre qu'il existe
deux types.
C'est dangereux,
le lait de tigresse. C'est surtout quand on l'attrait.
Il existe deux types d'appétit, qualitatif et quantitatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ?
Entre l'alimentation qualitative et quantitative. Alors, c'est bonne question. Décidément, il est très bien.
Oui, il est fort. On l'a bien choisi.
Ah oui, vous l'avez bien choisi. Bravo. Alors, trêve de plaisanterie. L'alimentation qualitative, c'est justement la nature des aliments. Qualitativement, vous devez manger du fromage le matin parce que c'est le plus gras de tous les aliments, la viande le midi parce que c'est le plus riche en protéines de tous les aliments, et les poissons ou les fruits de mer le soir, non seulement parce que ça contient des protéines légères, mais également énormément de gras polyinsaturés qui vont vous permettre de compléter la provision si par malheur vous avez oublié d'en manger le matin.
Docteur Delabo, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce point très complet sur la chrononutrition avec son inventeur, le docteur Delabo. Et on va passer à la pratique, justement, dans la vraie vie. Dans votre assiette, ça ressemble à quoi concrètement, la chrononutrition ? On va tout vous expliquer. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez bien sûr les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous docteur Alain Delabo, vous êtes directeur de l'IRENS, l'Institut de Recherche Européen sur la Nutrition et la Santé, puis vous êtes également l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, du livre « Mincir sur mesure grâce à la chrononutrition » qui est paru chez Albin Michel. Et on va docteur à présent passer, mettre en pratique finalement la chrononutrition pour débuter. Votre conseil à vous, c'est de varier les aliments pour éviter la monotonie, parce que sinon, ça c'est un risque justement, si on ne varie pas, de reprendre du poids.
C'est tout à fait vrai. La nutrition, lassitude, si vous voulez. Les gens... Alors, c'est l'expérience, au fur et à mesure, de voir des centaines de milliers de gens qui m'a permis, actuellement, d'avoir 370 000 dossiers.
Ah oui, quand même.
Oui, de consultation, hein, parce que sur Internet, il y en a beaucoup plus. Mais, en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que c'était la lassitude qui faisait qu'on arrêtait la chrono. Et c'est pour ça que j'ai refait un nouveau bouquin dans lequel je dis un maximum de permissivité. Alors, les puristes me disent « Mais enfin, docteur, vous interdisiez telle chose, vous l'autorisez ?» Je dis « Oui, parce que je vous l'ai interdit. Bilan des courses, la moitié d'entre vous ont dû en plus juste. J'en ai marre, je
lâche l'affaire, ouais, c'est ça.
Et c'est foutu. Donc, j'aime mieux que vous soyez piloté, guidé et surveillé gentiment que de faire n'importe quoi parce que vous en avez assez. Alors, vous avez quand même deux tempéraments différents. Le tempérament chien, dont je fais partie, vous pouvez... Mon épouse a fait un test sur moi. Un jour, je mangeais mon steak frites le midi et je lui dis... c'était du veau. Je lui dis, j'ai pas mon steak frites. Et elle éclate de rire. Elle me dit, ça fait exactement 54 jours que tu manges un steak frites tous les midis. Et le 55e jour, tu me dis, j'ai pas mon steak frites. Authentique. Hein. Je dois avouer que j'ai hurlé de rire à l'époque et que j'en rigole encore. Et le tempérament chat. Et c'est pour ça que mon épouse...
Vous aimez bien les animaux, hein, les tigresses, les chats, les chiens.
J'adore les animaux, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je dois avoir un côté un peu fait, un peu animal.
Le comportement chat, c'est quoi alors ?
Alors, c'est le comportement de mon épouse, c'est le comportement de beaucoup de femmes. Vous devez manger différemment tous les jours, sinon vous pétez un câble.
C'est vrai, hein ?
Mais bien sûr, c'est très important. Ça, c'est... Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment faire en sorte que vous n'arrêtiez jamais de manger correctement parce que vous en avez assez. Quand quelqu'un m'a dit « Oh, j'en ai assez », ça arrive encore. « Oh, j'en ai assez de manger comme ça, docteur. » « Madame, pourquoi mangez-vous tous les jours la même chose ?»« Ben, comment vous le savez, docteur ?»« Ben, parce que vous en avez assez, chère madame. Si vous variez tous les jours, vous n'en aurez plus assez. »
Alors, je ne sais pas, Mélanie, si vous êtes chien ou chat, mais on en discutera
après. Non, je suis chat, je crois.
Vous êtes un peu chat, au féminin. Alors, pour le déjeuner, vous êtes un peu plus strict, et là, vous dites quelque chose d'assez incroyable, pas d'entrée, pas de salade, pas de fromage, pas de dessert,
oh là,
pas de pain.
C'est triste, que, là, moi j'ai peur.
Le sandwich qu'on peut avaler en deux-deux aussi à la boulangerie.
Il se moque de moi, alors je vais me moquer de lui. Lui, c'est sandwich au thon tous les midis, quasiment. Ouais. Hein.
Salade, tomate, thon, pain. Donc là, on a tout faux.
Totalement, oui.
Vous allez
risquez de vivre 20 ans de moins que moi, je ne vous le souhaite pas. Vous allez apprendre le chrono. Je blague pas. En tant que
gériatre, ça a l'air strict le midi ce que vous
en
proposez.
En tant que gériatre, je peux vous dire, dans mon service, c'est là que j'ai mis au point la chrono sans le savoir. D'ailleurs, j'étais un peu le monsieur Jourdain de la chrononutrition, je faisais de la chrono sans le savoir. Et quand je suis parti de mon service au bout de 7 ans, la doyenne qui avait 97 ans quand je suis entré, en avait 104 quand je suis parti et je n'avais pas eu un seul mort sur 84 personnes. Ouais. Donc la longévité, c'est la chrono.
Mais alors
c'est
pourquoi le midi, on a le droit de manger quoi alors ? Parce que pas d'entrée, pas de dessert,
attendez,
pas de...
Mais c'est ce qui me fait marrer, c'est quand vous prenez une petite entrée, un petit plat, un petit machin, un petit bazar, en fait vous prenez un tas de trucs parce que le plat du midi ne vous suffira pas, donc il faut que vous mangiez autre chose. Si je vous offre une entrecôte de 400 grammes avec des frites,
je peux vous jurer
qu'après vous n'avez plus faim, vous ne pourrez rien manger. Quand bien même vous auriez envie, je vous assure, vous voulez un dessert, Jimmy ? Oh non, écoutez, non, merci, là, le doc, il m'a...
Donc il a droit à l'entrecôte frite le midi, ça,
mais
il a droit.
Bien sûr, vous pouvez manger une entrecôte frite.
Je vois ses yeux qui brillent, hein, donc ça a l'air de lui convenir. Hein.
Vous pouvez manger des plats en sauce, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Ce qui va freiner, ce qui va obliger à un programme un peu spécial, mais qui va aussi être agréable, puisque je le suis depuis 30 ans et ça ne me gêne pas, c'est le programme pour les troubles métaboliques importants, les troubles métaboliques génétiques. Un diabète génétique, une hypercholestérolémie génétique, ça ne se traite pas par-dessus la jambe. Ça, on doit respecter des règles précises.
Dans chrononutrition, il y a chrono, ça veut dire qu'il faut privilégier vraiment les repas à heure fixe.
Alors
allez-y, expliquez-nous.
Alors ça, c'est une énorme erreur. Ça n'est pas du tout à heure fixe. C'est quand votre appétit vous le commande.
Si un matin, il me le commande à 7h et le samedi matin, il me le commande à 11h, comment je fais ?
Si vous êtes bien réglé, si vous entrez dans le système chrono et que vous le faites correctement, vous saurez gérer votre alimentation d'une façon parfaite. Ma jeune collaboratrice qui m'accompagne et qui m'a conduit jusqu'à Paris, merci Elisabeth, parce que j'ai horreur de conduire, mange le matin, ce midi, elle n'a pas mangé. Pourquoi ? Parce que ce matin, elle s'est tapée 200 grammes de fromage, alors qu'elle fait 1m60, avec pratiquement une demi-baguette, et elle m'a dit « moi, j'aurais faim à 4h ». Parce qu'elle a géré, quand on est très très expérimenté, c'est une pro puisqu'elle est, elle est coach, quand on est expérimenté sur la chrono, on sait parfaitement gérer son alimentation. Mais il n'y a pas d'obligation. Je me lève le matin. Alors le matin, même si on n'a pas faim, il faut déjeuner. C'est la punition de si on a fait un repas de fête, un bel Aïd le soir, vous savez, vous avez bouffé n'importe quoi. Et le lendemain matin, vous avez envie de tout sauf de manger. Et là, la punition, c'est que vous devrez manger. Non, ce n'est pas l'erreur.
Il faut manger le matin.
Il faut absolument manger le matin les corps gras saturés si on veut assurer une une bonne continuité de votre alimentation et surtout de votre métabolisme.
Je peux me faire une raclette le matin, c'est bien, au petit
Exactement.
Déjeuner.
Ouais. Vous pouvez faire toutes les fantaisies que vous voulez, pourvu que ce soit une grosse quantité de fromage, du pain et soit de l'huile d'olive, soit du beurre, soit les deux, ça dépend un peu.
Ça donne envie, franchement.
Moi, oui, juste brossez-vous les dents avant de venir, Mélanie, après la raclette du matin. Est-ce qu'on peut espérer perdre du poids avec cette méthode ou pas?
C'est pas qu'on peut espérer. Si on a du poids à perdre, on va en perdre. Je viens de voir une patiente qui a perdu 50 kilos en un an.
En appliquant bien la chrononutrition.
Record, c'est une parisienne, 175 kilos au départ, 73 à l'arrivée.
Wow.
102 kilos.
En combien de temps,
mais militaire peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir parfois à dire, allez, j'en ai marre, parce que vous avez dit, on évite la monotonie. Est-ce qu'on a le droit à un moment à un craquage?
Un joker.
Ça peut être, mais bien sûr, une fois par semaine au départ. Il ne faut pas mettre deux fois au départ parce que ça freine. Et comme, mesdames, vous êtes toujours pressées, il faut toujours que ça aille vite, et les hommes paient le prix, je vois que Jimmy est entièrement d'accord avec moi.
Non, mais dites-le, c'est vrai.
C'est vous qui le dites, allez-y.
Vous savez, à mon âge, on peut dire un peu n'importe quoi, on s'en fout.
Hein. C'est quoi le repas de joker? Moi, ça m'intéresse, le joker, une fois par semaine.
Le repas joker, là, vous allez ouvrir des grands yeux, et Jimmy aussi, parce qu'il est gourmand. L'entrée, le plat principal, un autre plat, si on veut, poisson, fruits de mer, machin, bazar, huître. Ça peut être du fromage à la fin du repas. Pas avec une salade, un dessert, deux desserts, trois desserts. Je m'en fiche.
C'est la fête, hein.
Il faut savoir que la première fois que les hommes en général font leur repas de fête, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils font tout ce que j'ai dit.
Après, ils sont tellement mal qu'ils ne recommencent plus.
Exactement, vous avez tout compris. Et alors, il y en a un qui m'a engueulé, il m'a dit, mais enfin, c'est ce que moi j'ai fait, c'est horrible. J'ai dit, attendez, c'est pas moi qui vous l'ai fait. C'est vous qui avez décidé de bouffer n'importe quoi.
Ouais,
vous avez fait une orgie. Alors, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que je voulais que vous compreniez. Là, vous avez compris que qu'il ne faut pas le faire.
Très bien, on a compris. Docteur Delabaud, ne bougez pas surtout, restez bien avec nous. On revient dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. On va continuer cet éclairage sur la chrononutrition, surtout pour ceux qui désirent perdre du poids. Et je sens qu'avec ce troisième confinement, on est peut-être plus nombreux que d'habitude à avoir ce petit besoin. D'ailleurs, ce régime est-il le même? Que ce soit un homme, qu'on soit un homme, une femme, peut-on le faire si on est un grand sportif comme Jimmy? On va voir ça dans le détail. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, il est toujours à nos côtés dans ce studio, c'est vous docteur Alain Delabaud. Je rappelle que vous êtes médecin, concepteur de la chrononutrition et directeur de l'IRENS, l'Institut de Recherche Européen sur la Nutrition et la Santé. Alors docteur, quand on met en place la chrononutrition, puisque c'est notre thème aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes règles pour chacun? Est-ce que ça dépend de notre taille, de notre âge, de notre sexe par exemple?
Alors ça ne dépend pas du sexe, ça ne dépend pas de notre âge, surtout pas. En fait si, ça dépend un petit peu de notre âge, il faut savoir que contrairement à ce que tout le monde croit, un, il ne faut surtout pas donner de sucre aux vieillards, parce qu'ils aiment peut-être le sucre, mais c'est une catastrophe sur le plan, surtout sur le plan cérébral, sur le plan cognitif. On risque de leur coller un Alzheimer, alors qu'ils n'ont vraiment pas besoin d'en avoir un. Et il faut savoir qu'à nos âges, puisque j'en fais partie, on doit manger plus qu'à vos âges.
Ah bon ?
Bah parce que notre catabolisme s'est accéléré formidablement, donc il faut contrecarrer le catabolisme exagéré qui s'accentue par un anabolisme exagéré de son côté. Bien. Quand je dis plus, c'est pas plus de n'importe quoi. Si vous vous mettez à manger des yaourts le soir sous prétexte que vous êtes âgé, que vous êtes trop gros, c'est une catastrophe. Il ne faut jamais faire ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le rappelle, pas de laitage contenant du lactose. Mais on doit manger en fonction de sa dépense d'énergie de la journée, de l'énergie qu'on va dépenser, et on doit manger les quantités qui vous conviennent pour être en pleine forme.
Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux être accompagné pour faire ce genre de régime ou ce mode de vie? Ou est-ce qu'on peut essayer de se lancer seul avec le bouquin, par exemple, et puis on y va?
Je suis surpris de voir le nombre de gens qui, en ayant simplement lu mon livre, envoient sur Internet, puisque je sévis sur Internet trois fois par semaine sur YouTube, en ce moment une seule fois, parce qu'on a un boulot terrible, on ne peut pas faire les trois fois. Oui. Mais le nombre de gens qui disent « Merci Doc, j'ai perdu 20 kilos, j'ai perdu 30 kilos. »
Donc ils y arrivent en suivant vos principes.
J'avoue qu'à chaque fois, je suis ravi. Mais ça prouve une chose, hein. C'est une catégorie de gens qui est très cartésienne, qui est très capable d'être très disciplinée et qui fait attention. Et à cela, je dis « Bravo, mais faites attention à ne pas vous martyriser, à ne pas vous empêcher de manger des trucs agréables dans la mesure où vous avez un listing qui est très prenant. Profitez-en, faites-vous plaisir. Vous verrez en lisant le bouquin que je vous ai donné qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de permissions.
Est-ce qu'on peut appliquer la chrononutrition si on est un grand sportif? Est-ce
Au
que
contraire.
C'est de la même façon? C'est juste qu'on va augmenter quoi? Les quantités peut-être?
La chrononutrition, je suis en train d'écrire le bouquin sur les sports et j'ai la demande depuis je ne sais pas combien de temps, mais je vais quand même écrire la chrononutrition thérapeutique. Allez, je vais être sympa, je dis ça à tous mes internautes. Je vais mettre un chapitre dedans pour le sport parce que j'ai bien sûr un programme pour les sportifs de haut niveau. J'entraîne en ce moment des gens qui vont faire les Jeux Olympiques dans deux ans et c'est des gens qui sont venus me voir spontanément pour me dire, attendez Doc, j'ai vu ce que ça donnait sur ma grand-mère ou ma femme ou ma fille,
pour moi
ça peut marcher,
ouais,
mais bien sûr.
Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un gros repas de famille, un gros week-end? Est-ce qu'il faut se préparer justement pour ce repas? Est-ce qu'on évite de manger avant pour justement...
Ça, c'est une bonne question. Surtout pas se priver avant, parce que là, vous êtes sûr de faire un tas de bêtises.
Moi, je fais toujours ça avant le réveillon. Je ne mange pas de la journée, comme ça, le soir,
non,
je peux me baffer.
Non, il ne faut jamais faire ça, parce que le lendemain, vous allez être malade. Le lendemain matin, vous risquez d'être malade, vous risquez d'avoir trop mangé.
Donc, on mange normalement jusqu'à ce repas de fête, on va dire.
Parfaitement. Et il y a même des gens qui mangent plus pour s'empêcher de manger trop. Et c'est très malin, mais c'est des gens qui ont des problèmes métaboliques, diabète ou, etc., ou cholestérol ou hypertension, etc., qui font attention, à qui j'ai dit attention, n'avalez pas 24 huîtres.
Vaut mieux sauter le repas d'après, quoi, c'est ça?
Non, non, on n'a pas le droit de le sauter.
Non plus.
Non, 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 il faut rester bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son assiette.
On a l'impression que c'est gourmand chez vous, on mange quand même beaucoup, hein, quand même.
Ouais, beaucoup,
finalement, on n'est pas affamé avec la chrononutrition.
Ouais, bah non, mais écoutez, je mange le matin, je mange 180 grammes de fromage, le midi, je mange 350 grammes de viande, le soir, je me gaffe de poisson.
Il y a des légumes et tout ça dans l'histoire, quand
oui,
même.
Oui, il y a des céréales le matin sous forme de pain, il y a des féculents le midi pour accompagner la viande, et il y a des légumes le soir pour accompagner le poisson et les fruits de mer. Mais enfin, pour 1m72, je fais 69,9 kg, je me suis pesé ce matin.
C'est parfait, on valide. Vous avez le tampon.
À partir de quel âge on peut commencer à appliquer ce mode de vie? Est-ce que chez des enfants, par exemple, c'est un peu difficile? J'imagine un adolescent lui dire, écoute, commence à ranger du fromage le matin. En général, ils veulent
plutôt... À partir de 24 mois. Oui. Et sachez, cher ami, que les enfants raffolent du fromage et que j'ai une de mes petites filles qui se tapait. Elle a changé de fromage maintenant. Mais enfin, elle se tapait du Roquefort. Elle avait les 120 grammes de Roquefort.
Petit déj avant l'école.
6 ans.
Ah ouais.
Alors ne croyez pas qu'on
est
mauvaise haleine.
Donc c'est applicable en famille, hein, la chrononutrition.
On n'a pas mauvaise haleine après avoir mangé du fromage, c'est faux. Hein. Vous vous êtes brossé les dents, ça suffit largement. Ce qui donne mauvaise haleine, ça n'est pas du tout la mauvaise bouche, c'est le mauvais estomac. C'est quand vous avez un RGO, un reflux gastro-œsophagien, votre bouche, votre estomac est ouvert vers l'extérieur, et un estomac, j'ai été 3 ans en chirurgie, parce que ça me plaisait, ça m'amusait, ça pue.
Non, on n'a pas envie de sentir,
mais vraiment, ça pue,
on vous croit sur
c'est
parole.
Ah oui, vous pouvez. Hein.
Docteur Delabo, on a vu donc que la chrononutrition, ça peut aider à maigrir, enfin à maigrir pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est bon pour tout le monde finalement, pour toute la famille, pour être en forme et vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Mais est-ce que ça peut nous aider aussi peut-être à guérir ou à prévenir certaines pathologies comme, j'en sais rien, le cholestérol, le diabète
Alors, ça aide à prévenir bien sûr des pathologies, les troubles métaboliques dont vous venez de parler, mais la plupart des troubles métaboliques vont être à améliorer, mais également les troubles organiques. Toutes les douleurs intestinales doivent disparaître avec la chrono. Il y a un programme qui est un petit peu particulier.
Vous avez des témoignages de gens comme ça qui ont guéri de problèmes intestinaux
des centaines et des centaines. Hein. Oui. On vient voir. Alors, j'ai d'ailleurs, c'est amusant parce que je professe en province. Mais 80% de ma clientèle vient de Paris, ce qui me fait beaucoup rigoler. C'est là, il va falloir quand même que je vienne dans la capitale, parce que les pauvres, ils me disent « Quand est-ce que vous venez à Paris, docteur ?» Je dis « Bon, feu. »
En parlant de parisien, vous parlez du syndrome du raton laveur. Ça n'a aucun rapport, mais c'est qu'est-ce que c'est? C'est le fait de grignoter de façon compulsive, sans s'en rendre compte, pour essayer de se calmer de l'angoisse un peu ambiante?
Non, ce n'est pas pour se calmer de l'angoisse, c'est parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas s'asseoir à table et manger parce qu'on a peur de trop manger en s'asseyant. Sachez que pratiquement toutes les ratons laveuses, parce que c'est plus des ratons laveuses que des ratons laveurs.
Encore une fois, c'est
plus.
Nous. Hein.
Ah, il y a beaucoup plus de femmes ratons laveurs que d'hommes. Parce que vous avez peur de grossir en mangeant à table, donc vous ne mangez pas à table. L'ennui, c'est que vous grossissez parce que vous ne mangez
parce
pas à table.
Parce qu'on grignote et on boulotte. Quoi.
Et je vois des gens d'un certain âge, quand je dis d'un certain âge, c'est même d'un âge certain, qui ont plus de 80 ans, qui me disent « Docteur, je ne comprends pas. Je grossis depuis des années et je ne mange pas. » Alors, la première fois qu'on m'a sorti ça, j'ai dit, se fout de moi.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Ouais. Je dis, mais vous ne mangez pas.
Pas à table,
ah non,
en fait.
Docteur. Et en fait, voilà, c'est qu'elles oublient de dire, je ne mange pas à table. Mmh. Et comme elles ne mangent pas à table, elles grignotent. Le grignotage est épouvantable.
Il y a beaucoup de gens qui sautent des repas, hein, malgré tout, qu'on se soit baffré la veille ou pas, mais sauter des repas parce qu'on est pressé, parce qu'on travaille, parce que si, parce
c'est
que là.
C'est inexcusable.
Si je saute le midi, parce que Jimmy, je dis qu'il mange souvent des sandwichs chotons, mais ça lui arrive aussi souvent de sauter le déjeuner parce qu'il sort de consultation et qu'on rentre en studio. Enfin, je raconte votre vie, Jimmy, là. Mais est-ce que sauter un repas, c'est grave? Est-ce que ça veut dire qu'il a le droit de manger le double le soir, quoi?
Mais non, il faut surtout pas faire ça. C'est une vraie catastrophe. Alors, écoutez, on a pris ma collaboratrice m'a conduite et m'a amené ici. J'avais amené mon déjeuner. J'avais amené un déjeuner qu'elle a d'ailleurs pris en photo, ça l'a amusé. Il y a 300 grammes de bœuf cuit, donc il est en petits morceaux. Une part correcte de lentilles vinaigrettes. Et j'ai mangé le tout et je peux vous assurer que dans l'ensemble, 300 grammes de bœuf cuit, ça représente quand même 450 grammes de viande crue, pas loin de ça. Les lentilles, elles étaient vinaigrettes, elles étaient préparées. J'en ai pas mangé trop, encore qu'elle m'a fait la remarque qu'il y en avait beaucoup. Et j'ai mangé ça en 5 minutes. C'est-à-dire le même temps que vous mettrez à bouffer votre saloperie de sandwich.
Jimmy, le bœuf, hein, les lentilles, on va préparer la gamelle pour demain. Merci beaucoup, docteur Delabeau, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir présenté donc votre méthode. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, je rappelle votre livre « Mincir sur mesure grâce à la chrononutrition » paru chez Albin Michel. Merci encore, docteur.
Europe 1.
Dans un instant, dans la chronique que vous attendez tous, bien sûr, c'est la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Il va nous parler du massage Kobido. Le chanceux, il a pu le tester. Un massage japonais qui nous fait rajeunir. Et Benjamin, je crois qu'il a perdu 15 ans, Jimmy. Au moins. Ouais, alors il va nous expliquer son tour de magie. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Et cette semaine, Benjamin, vous avez décidé de nous parler d'un massage. Alors moi, ça m'intéresse, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Je voulais même commander cette chronique, on va dire la vérité. Donc le massage Kobido pour embellir notre visage. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, ça nous vient du Japon. Et alors comme j'ai fait LV2 japonais, je vais pouvoir vous le traduire. Bien sûr, ouais. Ça veut dire ancienne voie de la beauté. Alors si ce massage est aujourd'hui tendance, il ne date pas d'hier hein, puisqu'il est né au 15e siècle. Et à l'époque, comme le dit la kinésithérapeute Marine Clermont, cette tradition était réservée qu'à une certaine élite.
C'est un massage qui est issu de l'anma, en fait, qui est le massage traditionnel de médecine chinoise. Il a été mis au point par deux maîtres de l'anma qui ont fait une compétition. Il n'y a pas eu de vainqueur, mais ils se sont associés pour créer le Kobido. Parce qu'on partait du principe qu'il y a un lien entre la beauté physique et la santé. Le visage, c'est une zone de connexion des méridiens chinois qui ont un effet réflexe à distance sur tous les systèmes, le système nerveux, digestif. C'était un massage qui était réservé à l'impératrice. Puis après, ça s'est démocratisé, mais ça a toujours été réservé à un petit cercle.
Et cette pratique est transmise aujourd'hui de maître à disciple depuis maintenant 26 générations.
Mais comment est-ce qu'un massage pourrait nous permettre de nous débarrasser de
nos rides ? Moi, je vous jure, j'ai vu des résultats, c'est incroyable.
Eh bien, en fait, on va utiliser plusieurs dizaines de techniques de massage à des vitesses et intensités plus ou moins différentes, sur le front, les yeux, les joues, bref, partout. Et avec cette méthode, eh bien, on va réussir à lifter la peau du visage, comme le dit Marine Clermont.
En fait, on va surtout essayer de relancer la microcirculation, tout le système lymphatique, pour que la peau soit mieux nourrie et qu'elle élimine mieux les déchets. On va travailler aussi sur les muscles, on va détendre tous les muscles qui sont à l'origine des rides d'expression. On va tonifier les muscles de l'ovale. Et un massage qui va permettre un travail en profondeur et qui va relancer en fait le métabolisme de la cellule. La cellule va se remettre à travailler, ça va se remettre à fonctionner. Du coup, on va vraiment retarder les signes du vieillissement. On peut corriger certains signes, qui sont les petites ridules ou des petits relâchements, mais on va surtout prévenir et retarder les effets du vieillissement.
Et au-delà de l'aspect esthétique, ce massage a un effet relaxant. Il agit donc sur les tensions et peut donc améliorer, par exemple, le sommeil.
Benjamin, est-ce que tout le monde peut le faire, même Jimmy ?
Même Jimmy, il n'y a pas de réelle contre-indication. Toutefois, on évite quand même de pratiquer un tel massage sur un visage qui est bourré d'acné ou d'eczéma, tout simplement parce qu'on frotte quand même la peau de manière énergique. Donc, ça peut ne pas être agréable, ouais, voire douloureux.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet de mode avec plein d'instituts qui, du coup, vont se plonger dans le massage Kobido ?
Effectivement, on en voit beaucoup. Beaucoup de centres esthétiques mentionnent justement ce massage japonais, mais il n'est pas pratiqué dans les règles de l'art. En vérité, il n'y a que peu d'élus dans le monde. En France, seule une poignée de personnes pratiquent le véritable massage Kobido. Et c'est le cas de Marine Clermont, formée il y a 6 ans auprès d'un maître japonais. Je suis donc allé à sa rencontre pour expérimenter ce massage anti-âge. Bonjour Marine.
Bonjour Benjamin.
Bon, je suis un peu déçu, vous n'êtes pas en habit traditionnel japonais, mais c'est normal, j'imagine.
Oui, ici on est dans un cabinet paramédical, donc voilà, je suis en blouse.
Moi j'ai 28 ans, c'est pas trop jeune pour faire du massage Kobido ?
À 28 ans, on peut prévenir des poches sous les yeux, des cernes.
Ok, parfait. Ah bah écoutez, je vous suis. Donc je m'installe, c'est ça ?
Oui. Je vais vous mettre un petit bandeau, d'accord, pour bien tirer les cheveux en arrière.
Voilà. Donc là, vous allez m'appliquer une huile, une crème, c'est ça ?
Alors en fait, je mélange une noisette de crème avec quelques gouttes d'huile. Et après, je vais rajouter de l'eau en fonction des techniques que je vais utiliser.
Bon, je ne parle plus et je vous laisse agir, Marine.
Voilà, là, on est plutôt sur des manœuvres drainantes. Voilà, on active un petit peu la circulation.
Ah oui, c'est assez tonique, effectivement.
Et là, c'est plutôt des manœuvres de pétrissage. Voilà, on va travailler un petit peu les muscles. On va les regonfler un petit peu, ceux-là. C'est ceux du bas du visage. Voilà, fini.
Waouh, alors j'ai quand même l'impression d'avoir fait une séance de cardio, là, de sport. C'est normal d'avoir un coup de chaud comme ça?
Oui, c'est parce qu'on a annulé le sang, en fait. Hein. C'est un massage qui est tonique. La peau, on la stimule, elle réagit.
Merci beaucoup, Marine.
Je vous en prie.
Bon résultat, je pense que ça se voit en studio de la première séance. On a un vrai coup de frais, mais pour un vrai rajeunissement, bien là, il va falloir prévoir une dizaine de séances. Le prix, c'est 90 €, le massage qui dure une demi-heure. Et dernière chose, vous pouvez vous lancer seul à la maison à faire ce massage, cet auto-massage Kobido, grâce au livre Auto-massage Kobido pour un visage lissé et revitalisé, paru aux éditions Marabout.
Merci beaucoup au jeune Benjamin Lévesque pour ce conseil beauté de début de semaine.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous, bien sûr, depuis 15h. C'est Catherine Blanc, à présent, qui nous rejoint en studio, comme tous les jours. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va démarrer cette semaine avec une question de Priscilla, que je vous lis tout de suite. Quand nous ne sommes que tous les deux, mon copain est hyper tendre, attentionné et romantique. Mais dès que l'on est en groupe avec des amis, là, il se moque de moi tout le temps. C'était amusant au début, mais ça en devient vexant à la longue. Pourquoi fait-il ça? Alors Catherine, moi, je comprends un peu Priscilla. Là, c'est possible de passer comme ça de tendresse, attention, à moquerie. C'est un peu schizophrène, non, quand même, pour elle. Enfin, je comprends que ce soit compliqué, en tout cas.
Oui, mais ça me fait penser au film Grease, vous savez, où il faut jouer le rocker, le mec dur, pas d'émotion, se moquer des filles. Et puis, évidemment, il y a le joli cœur amoureux. Et voilà, je crois que ça, c'est assez classique, notamment chez les jeunes gens. Parce que justement, dire son romantisme, c'est témoigner de ses propres émotions. Et
faiblesse, éventuellement.
Et c'est perçu par les garçons, à tort, bien évidemment, comme étant l'expression d'une faiblesse. Et aussi, le sentiment potentiel qu'une femme a un pouvoir sur eux, puisque elle les séduit à ce point, elle les fait recouler. Donc, de fait, beaucoup de garçons se protègent de toute cette expression et du coup ont besoin de chamailler, de brusquer un peu les filles qui souvent d'ailleurs jouent là-dessus, c'est-à-dire qu'elles aiment bien de façon assez masochiste supporter ça, parce que c'est une façon justement d'entendre cette ambivalence. Elles seules savent qu'en réalité ils craquent pour elles, etc. Sauf qu'à la longue, c'est pas bien du tout. Ça n'est pas bien pour elle et ça n'est pas bien pour lui, puisque c'est de laisser penser que l'expression de l'amour ou du romantisme ou de la tendresse, c'est quelque chose qui est antiviril. Alors c'est une confusion, bien évidemment. Virilité, ça demande de l'assertivité, ça demande effectivement de la puissance, mais ça ne veut pas dire de la méchanceté, de l'agressivité, de quelque manière que ce soit.
J'ai le regard d'un anthropologue quand je vois cette question. Et je me dis tout
oui,
simplement...
Oui, moi de pouffer, Jimmy, allez-y.
Non, mais écoutez, la réflexion, elle vaut le détour.
J'écoute, allez-y.
À mon avis, il fait le coq devant ses amis pour faire le canard ensuite
la
à la maison.
La minute sociologie.
Non, mais c'est ça,
c'est
montrer sa puissance avec les autres et puis redevenir cet animal tout doux qui va écouter, qui va finalement être en bonne relation. Et c'est une bonne chose. Mais c'est humain, en fait. C'est normal de faire le beau quand il y a ses copains et puis à la maison. Bon,
ouais, quand on a 17 ans, quoi, on va dire.
Oui,
en fait, c'est assez logique. Effectivement, beaucoup de jeunes gens fonctionnent de cette manière. Mais je trouve que ce qui est assez inquiétant, c'est que ça en dit long sur l'idée que la relation impose leur soumission. Et donc, du coup, ils sont très soumis, mais ils essaient de se rebeller devant leurs copains. Mais en réalité, ce sont des jeunes hommes et plus tard des hommes qui auront une tendance à être très peu proactifs dans la relation de façon équitable avec leur compagne. Du coup, ils s'enferment. Cette idée qu'une femme les soumet est liée au fait qu'eux-mêmes se soumettent d'une certaine manière et ne laissent que penser à la galerie qu'ils ont le pouvoir, le plastron brillant, etc. Mais ça en dit long sur leur sentiment de faiblesse dans leur rapport aux femmes.
Parce qu'on dit parfois qu'il aime bien, châtie bien, mais là j'ai l'impression que ça dépasse juste j'ai un peu d'humour, etc. Il se moque de moi tout le temps. Là on est bien loin du qui aime bien, châtie bien, on est d'accord.
Oui.
S'il l'humilie, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Non. Alors d'abord, c'est très délétère pour la relation, c'est très délétère pour lui. Ça ne va faire qu'après un sentiment de culpabilité qui fera encore plus de soumission derrière. C'est vrai que on voit déjà à l'école maternelle qui aime bien châtie bien les petits garçons ou les filles d'ailleurs qui chacun se moquant de l'autre.
Se chamaillent beaucoup avec ceux qu'ils aiment bien.
Voilà, parce qu'ils m'intéressent particulièrement et que je ne peux pas faire face à ce flot d'émotions importantes dès lors que l'autre est en face de moi. Et que pour le masquer, je vais dire tout le contraire, c'est ce qu'on appelle le contre-investissement d'un désir refoulé. Mais ceci
ça,
étant...
Ça, vous ne connaissiez pas, Jimmy.
Non, je découvre ce terme-là. Mais chacun son métier.
Voilà. Mais ceci étant, c'est une chose quand on est à la maternelle, mais à un
voilà,
moment donné,
ça.
Il faut
grandir.
Qu'on
est un peu plus grand. Ouais.
Et on est responsable de son propos. Et ce qu'on abîme, on ne l'abîme pas que chez l'autre, on l'abîme déjà chez soi.
Et peut-être qu'il ne s'en rend même pas compte. Peut-être qu'il ne veut pas faire mal. C'est juste qu'il est peut-être maladroit.
Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit lui dire.
Elle
ouais.
peut-être lui dire, lui en parler.
Bien sûr. Mais
l'envoyer
bouler
devant les copains, moi, je crois.
Je crois que dans un premier temps, c'est lui dire à lui tout seul. C'est dire, il faudrait que tu arrêtes.
Chacun son métier.
Il faudrait que tu arrêtes parce que c'est très vexant. Je trouve ça très désagréable. Et puis, je te préviens que si tu continues à le faire devant les copains, devant les copains, je te dirais que c'est assez étonnant parce que c'est diamétralement différent de ce que tu vis avec moi au quotidien.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils qui sont précieux, évidemment, comme toujours. On se retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.